Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir et la Presse. Au programme, Québec allège les obligations environnementales d'une entreprise délinquante, un monde sans enfants et moins généreux les Québécois. Bonne écoute.
Québec allège les obligations environnementales d'une entreprise délinquante, un texte de Ulysse Bergeron et Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier dans Le Devoir. Le centre de tri de services 3R Valorisation, situé à Montréal-Est, déborde. Or, malgré de nombreux avis de non-conformité et d'importantes sommes dues au fisc canadien et québécois, l'entreprise a récemment bénéficié d'un sursis de la part du ministère de l'Environnement, a constaté Le Devoir. Le gestionnaire du site, qui a signé cette entente avec Québec, a eu des démêlés avec la justice. Le site de 3R Valorisation, qui fait environ 10 000 mètres carrés, croule sous les résidus de construction. Lors de notre passage, les amas atteignaient par endroits 9 mètres, une hauteur bien supérieure à la limite de 5 mètres permise dans le certificat d'autorisation délivré par le ministère de l'Environnement. Les montagnes de résidus sont telles qu'une affiche « trottoir barré » et « des cônes oranges » ont été installées par mesure de sécurité le long du muret qui ceinture le site. Les infrastructures servant au tri des matières résiduelles, en partie ensevelies, sont actuellement inaccessibles. Cela n'empêche toutefois pas des camions d'y transporter d'autres résidus. Manquement et amende. Depuis 2013, 3R Valorisation est dans la mire du ministère de l'Environnement. 6 inspections ont relevé des manquements aux normes environnementales québécoises, hauteur des amas et zones d'entreposage non respectées, débris tombant sur les propriétés voisines, lixiviate s'écroulant du site lors de la fonte des neiges et non tenue d'un registre des matières qui entrent sur le site et qui en sortent. L'exploitant a refusé de permettre à l'inspecteur de consulter les registres des intrants et des extrants du centre de tri, précise dans une ordonnance le ministère de l'Environnement à la suite d'une inspection réalisée en 2017. Au cours des 10 dernières années, le ministère a transmis 5 avis de non-conformité et a infligé 3 amendes, à ce jour impayées, totalisant 17 500 $. Malgré ce comportement délinquant, le ministère de l'Environnement a récemment allégé les obligations de l'entreprise. En vertu d'un accord de conciliation conclu en octobre dernier, Québec permet à 3R Valorisation de former, jusqu'au mois d'avril prochain, des amas de 9 mètres de haut. Il lui donne jusqu'à avril 2024 pour respecter les critères de son certificat d'autorisation qui autorise des amas de 5 mètres. Pourquoi un tel sursis? Le ministère indique que cet accord a été conclu après que 3R Valorisation eut contesté les décisions du gouvernement. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, suit la situation de près, affirme son attachée de presse, Mélina Jalbert. Si les mesures ne sont pas respectées, le ministre est déterminé à prendre les recours nécessaires, dit-elle. 3R Valorisation connaît d'importants problèmes financiers. Dans ce contexte, L'entreprise sera-t-elle en mesure de respecter ses nouvelles obligations à l'égard du ministère de l'Environnement d'ici le printemps 2024? En théorie, oui, répond l'avocat de 3R Valorisation, Maître Karl-Emmanuel Harrison. Depuis 2022, 3R Valorisation a de nouveaux débouchés pour se départir des fractions fines, selon l'avocat, qui précise que l'entreprise attend actuellement un tamiseur pour assurer le tri de ses matières. La table de tri est défectueuse depuis l'été. Elle n'est pas accessible actuellement, ce qui expliquerait que les réceptions sont réduites au minimum. Maître Harrison ajoute que les engagements sont clairs. Il y a un délai de 18 mois pour régler les deux problèmes, le problème de hauteur des piles et une réduction de la pile de fractions fines. Les fractions fines sont des matériaux comme le bois, le verre, le gypse ou les bardeaux d'asphalte. Vous écoutez, Québec allège les obligations environnementales d'une entreprise délinquante. Un texte de Ulysse Bergeron et Marie-Ève Cousineau paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. Pour le directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, le sursis qu'offre le ministère de l'Environnement, c'est presque une complicité compte tenu de l'historique environnemental de la compagnie. Vous, essayez de ne pas payer une contravention au ministère. Je suis pas mal certain que vous allez avoir un sabot de Denver au cours de la prochaine année. Pourquoi donne-t-il des délais comme ça? Honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais pour moi, c'est inacceptable. Démêlé avec la justice. Le président de 3R Valorisation, Simon Bergeron, en arrêt de travail depuis l'été, a refusé notre demande d'entrevue. Lors de notre passage au centre de tri, deux hommes dans un camion ont barré la route au véhicule du devoir sur la voie publique. Lorsque questionné au sujet des manquements environnementaux de 3R Valorisation, le conducteur a renvoyé le journal à l'avocat de 3R Valorisation, Maître Harrison. Il faudrait lui parler avant d'écrire n'importe quoi, parce qu'il va y avoir de gros changements. L'homme rencontré à Montréal-Est se révèle être Jean-François Boisvert. Directeur des opérations du centre de tri, M. Boisvert tient actuellement les rênes de l'entreprise. C'est lui qui, à titre de représentant légalement autorisé de 3R Valorisation, a signé l'accord de conciliation avec le ministère de l'Environnement. Jean-François Boisvert a eu de nombreux démêlés avec la justice. Il a plaidé coupable d'extorsion en 2009. Deux ans plus tard, le bureau de son entreprise, Remblay JFA, a fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de la deuxième phase du projet ETO, une enquête d'envergure menée par Revenu Québec et la Sûreté du Québec, SQ. La démarche visait des entreprises qui auraient bénéficié d'un réseau de facturation de complaisance dans les secteurs de la construction et du transport, selon les documents de la Cour. En 2017, l'entreprise qui n'est plus en activité a plaidé coupable à une accusation réduite pour ne pas avoir respecté la loi sur la taxe d'accise. Les accusations ciblant personnellement M. Boisvert ont été retirées un an plus tard. En 2015, c'est l'entreprise de décontamination Gestion OFA Environnement, dont Jean-François Boisvert était directeur des opérations, qui se retrouve sous les projecteurs. Elle fait alors l'objet d'une enquête de la SQ et du ministère de l'Environnement pour avoir déversé illégalement des sols contaminés. Dans le cadre de cette enquête baptisée Naphtalène, les autorités ont mené des perquisitions visant notamment des infractions alléguées de possession de biens criminellement obtenus, de production et usage de faux, de fraude, de méfaits et de recyclage de produits de la criminalité et de participation aux activités d'une organisation criminelle. L'enquête a avorté en 2018 pour insuffisance de preuves pouvant établir la culpabilité des suspects, selon le directeur des poursuites criminelles et pénales. Gestion OFA Environnement poursuit maintenant le gouvernement du Québec ainsi qu'un enquêteur du ministère de l'Environnement et des enquêteurs de la SQ. Elle réclame 4,25 millions de dollars pour atteinte à sa réputation et en dommages punitifs, entre autres. Les perquisitions n'étaient pas basées sur des motifs raisonnables. Elles ont engendré la fermeture de l'entreprise, affirme Maître Harrison, également avocat de gestion OFA Environnement. Dans sa requête, la compagnie accuse aussi la SQ d'avoir laissé filtrer de l'information dans les médias, ce qui aurait nui à son image. Jean-François Boisvert a refusé de commenter ces dossiers. En 2020, le ministère de l'Environnement s'est cette fois intéressé à 3R Valorisation. Dans une demande d'injonction déposée à la Cour supérieure, il indique qu'une opération de filature a permis de constater que des matières résiduelles provenant du centre de tri de Montréal-Est étaient déversées illégalement sur un site à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans Lanaudière, ce que rapportait la presse à l'époque. Ce site-là devait satisfaire à des conditions pour recevoir des matériaux et n'y avait pas satisfait. À partir du moment où le ministère nous a fourni des documents, 3R Valorisation a cessé d'envoyer de la matière là, assure Maître Harrison. 3R Valorisation est aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle n'a pas l'intention de poursuivre ses activités dans sa forme actuelle. Maître Carl-Emmanuel Harrison confirme que 3R Valorisation a entamé des démarches pour vendre ses actifs. Des offres ont été faites par certaines personnes pour acquérir le terrain, soutient-il. Peu importe les scénarios envisagés, le site sera nettoyé, assure-t-il. Soit il y a une vente du terrain et l'acheteur nettoie, soit la compagnie nettoie et vend, soit 3R Valorisation nettoie et continue ses activités. Une faillite est-elle projetée? Ce n'est pas le scénario envisagé. C'était « Québec allège les obligations environnementales d'une entreprise délinquante », un texte de Ulysse Bergeron et Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier dans Le Devoir. Un monde sans enfants, un texte de Christian Rioux, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. Avouons que pour un Québécois, le débat qui a cours en France sur le report de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans peut paraître lointain. Mais il y a un aspect pour lequel il mérite toute notre attention. Comme l'ont souligné les économistes, si la question de l'équilibre des régimes de retraite se pose de façon si aiguë dans nos pays, c'est que la proportion entre les actifs et les retraités s'est radicalement transformé. Si, en 1960, il y avait en France 4 actifs pour payer la retraite d'un retraité, il n'y en a plus aujourd'hui que 1,7. Plus la durée de vie des citoyens s'est allongée, plus la natalité a décliné. Il n'y a pas si longtemps, la France se vantait d'avoir le meilleur taux de natalité en Europe. Or, le pays vient de découvrir avec stupeur que celle-ci n'a jamais été aussi basse depuis 1946. Si elle n'a pas encore rejoint les taux de l'Allemagne ou de l'Italie, il semble néanmoins que c'en soit fini de l'exception française. Bien sûr, comme partout, cette baisse de la natalité est largement due à l'entrée massive des femmes sur le marché du travail et aux longues années d'études qui les poussent à reporter l'arrivée de leur premier enfant. De cela, personne ne se plaindra. Seuls les pauvres sont riches de leurs enfants, c'est bien connu. Mais il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas constater combien le discours sur la natalité s'est radicalement transformé dans les dernières années. Victor Hugo ne voulait habiter la cité des vivants que dans une maison qu'une rumeur d'enfants fasse toujours vivante et folle. La société postmoderne n'en finit plus d'envisager aujourd'hui l'enfant comme un fardeau. N'est-ce pas ce qu'il faut croire, en entendant certains décrire l'enfer qu'aurait été pour nos parents la charge d'une famille? Alors que les slogans « No kids » et « Child free » pullulent sur les réseaux sociaux, c'est à qui redoublerait de radicalité pour briser le tabou de la maternité et en finir avec l'injonction d'être mère. Comme s'il n'était pas normal que, sans rien imposer à personne, une société saine souhaite tout simplement se reproduire. Dans un monde du chacun pour soi, les bambins n'ont plus la cote. Même qu'ils dérangent. Les voilà qualifiés d'hyperactifs, d'atteints d'un TDAH ou autre trouble du spectre de l'autisme. Malade ou pas, il demeure le plus souvent un problème. C'est pourquoi de grandes entreprises progressistes offrent à leurs employés de congeler leurs ovocytes afin qu'elles n'aient pas l'indélicatesse de s'encombrer d'un petit morveux en pleine carrière. En 10 ans, le nombre de vasectomies, célébrées sur Internet par le mot-clic « quick, quick, hurrah », aurait été multiplié par 10 en France. Si le moindre obstacle à l'avortement fait descendre des millions de personnes dans les rues, souvent avec raison, l'idée même de trouver des moyens pour aider les familles à avoir le deuxième ou troisième enfant dont elles rêvent déclenche l'ire de certains médias. On ne s'étonnera pas que ceux qui rêvent d'effacer toute distinction entre les sexes envisagent la maternité avec perplexité. Certains écologistes n'hésitent d'ailleurs pas à considérer ouvertement les enfants comme une nuisance en les réduisant, après les bovins, à la quantité de CO2 qu'ils émettent. Pas moins de 58,6 tonnes en moyenne par an, disent-ils avec la précision glaçante d'un entomologiste qui dissèque un papillon. Que vaut une écologie qui ne s'émerveille plus du sourire d'un enfant? D'autant que ce néo-malthusianisme est fondé sur la croyance absurde voulant que nous vivions dans un univers clos aux ressources définies une fois pour toutes. C'est ce que croyaient les hommes préhistoriques, avant qu'ils ne maîtrisent le feu, ceux du Moyen Âge, avant la machine à vapeur, et nous-mêmes, avant la révolution informatique. C'est aussi ce que croyait, dans les années 1970, le célèbre Club de Rome, qui prédisait l'épuisement des ressources pétrolières à l'orée des années 2000, et l'effondrement du système sous le poids d'une démographie galopante. En 1968, s'appuyant sur les mêmes arguments, l'éminent professeur Paul R. Ehrlich de l'Université Stanford avait jugé inévitable une famine massive dans les années 1980. 40 ans plus tard, jamais la faim n'a connu un tel recul dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, à l'échelle du monde, l'explosion démographique est derrière nous, dit le démographe Hervé Lebras. Dans certains pays, le baby crash a même succédé au baby boom. Dans ce contexte, et compte tenu du défi que pose à un État-providence la solidarité entre les générations, ne serait-il pas normal que les pays les plus touchés songent à se donner des politiques natalistes? Ne serait-ce que pour maintenir à flot le niveau de leur population? C'est l'écrivain J.K. Chesterton qui décrivait l'arrivée d'un enfant comme la première forme d'ouverture à l'autre, car personne ne sait jamais à quoi ressemblera le petit être à venir. On nous annonce déjà un monde sans hommes ni femmes. Imaginez l'ennui d'un monde sans enfants. C'était « Un monde sans enfants », un texte de Christian Rioux, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir.
Moins généreux, les Québécois? Un texte de Maxime Penneau-Jobin, paru le 13 janvier 2023 dans la presse. Chaque année, depuis presque 20 ans, l'Institut Fraser nous fait le coup. Selon son Generosity Index annuel, en 2022, les Québécois auraient encore été les Canadiens les moins généreux. Pas d'explication, pas de contexte, mais des chiffres qui permettent à ce groupe de recherche ultra-conservateur de continuer à dénigrer l'État ayant le filet social le plus solide en Amérique du Nord. D'abord, les chiffres. En matière de dons de charité, la principale différence entre le Québec et le reste du Canada, ce n'est pas la générosité, mais probablement la religion. Au Canada anglais, les organismes religieux reçoivent la part du lion des contributions des particuliers, 40%, ce qui n'est pas le cas au Québec. Évidemment, certains organismes religieux renforcent le filet social, mais pas nécessairement. Pour être enregistré comme organisme de bienfaisance et ainsi pouvoir remettre des reçus pour crédit d'impôt, les organismes de type religieux peuvent se limiter à promouvoir la religion et les gouvernements ne documentent pas ce que le crédit d'impôt a servi à financer. Cela étant dit, quand on exclut les dons religieux en tout ou en partie, la différence Canada-Québec s'atténue. Mais ce n'est pas ce qui est important. On nous dit également que les Québécois donnent moins parce qu'ils sont moins riches qu'ailleurs au Canada. C'est vrai, les grands mécènes sont encore rares chez nous. Le Québec Inc. est relativement jeune. Mais les choses changent rapidement. À ce sujet, une chronique de Francis Vaille révélait que le revenu total médian des Québécois dépasse maintenant celui des Ontariens. Cet accroissement de notre richesse collective expliquerait l'augmentation récente, chez nous, du recours à des dons planifiés, comme des versements mensuels et des dons légués par testament. Il y a, là aussi, un progrès. Mais ce n'est pas non plus ce qui est important. Autre élément, l'Institut Fraser ne tient pas compte des dons ponctuels. Quand une crise se présente, les Québécois donnent spontanément. Les grandes campagnes publiques sont très efficaces chez nous. Nous sommes champions de ce type de dons, mais l'Institut n'en tient pas compte, comme il ne tient pas compte non plus des dons en temps ou en nature. Mais ce n'est pas encore ça l'important. L'important, ce qui explique vraiment que nous donnions moins aux organismes de charité, c'est que nous croyons que la lutte contre la pauvreté ne devrait pas dépendre du bon vouloir de riches donateurs, mais bien de l'État. En conséquence, nous acceptons de payer des impôts, et ce, plus qu'ailleurs. Et les résultats sont là. Il y a moins de grande pauvreté et moins d'inégalités chez nous que dans le reste du Canada parce que l'État joue son rôle. j'ai eu la chance, plus souvent qu'à mon tour, de constater qu'en temps de crise, le secteur privé et la société civile ont une puissante capacité d'action. Lors des inondations de 2017 et 2019, ils ont aidé des gens, sauvé des maisons, complété avec brio l'action de l'État. Mais l'État était incontournable. Il assurait la santé et la sécurité des sinistrés, ainsi que l'essentiel de la protection des biens et des infrastructures. Des organisations comme l'Institut Fraser souhaiteraient que, grâce à la philanthropie, l'État puisse se désengager. Ce serait une erreur. La générosité des gens doit complémenter l'action de l'État et non pas essayer de la remplacer. Elle est irremplaçable. Il est absurde que des refuges pour sans-abri ou encore des soupes populaires dépendent de la charité des bien nantis pour fonctionner. C'est à l'État de s'assurer que les plus démunis ne manquent de rien. Si le Québec est l'État en Amérique du Nord où il y a le moins d'inégalités sociales, le moins de pauvreté chez les enfants et qu'il est l'endroit où l'espérance de vie est la plus grande, c'est grâce aux impôts que nous payons, pas grâce à la charité. Il est évidemment souhaitable que les gens donnent aux organismes de charité, mais il est surtout essentiel qu'ils continuent à soutenir l'action de l'État par leurs impôts. C'est de loin ce qui est le plus efficace, et c'est là que s'exprime le mieux l'immense solidarité, l'immense générosité des Québécois. C'était « Moins généreux, les Québécois », un texte de Maxime Penneau-Jobin, paru le 13 janvier 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Gilbert Lepage à la lecture, Suzanne Beauchamp et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartman à la présentation et au montage.